Le débat avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. On n'a pas de jingle aujourd'hui, c'est pas grave.
On s'en remettra.
On a une nouvelle compagnie de train à grande vitesse baptisée Proxima qui a acheté 12 rames à Alstom et qui a levé 1 milliard d'euros. Elle compte relier Nantes, Bordeaux, Rennes et Angers à Paris d'ici la fin de la décennie. On a une autre compagnie aussi sur le créneau, c'est Le Train. Est-ce que c'est possible de concurrencer la SNCF?
Oui, c'est possible de concurrencer la SNCF, sauf que pour l'instant, à peu près personne n'y arrive. La réelle concurrence de la SNCF face à la SNCF, c'est la SNCF italienne et la SNCF espagnole. Il y a cette semaine, là, Midnight Train, qui avait prévu de faire un train de nuit, qui a jeté les ponts. Il voulait aller jusqu'à Venise, en passant par Milan au départ de Paris. Aucun soutien des pouvoirs publics, ils n'ont pas réussi à lever suffisamment d'argent. On a eu un dépôt de bilan qui s'est passé devant le tribunal de commerce de Cahors. C'était à la fin du mois d'avril. C'est Railcoop qui a déposé le bilan, coopérative ferroviaire qui était née en 2019, qui voulait lancer un Bordeaux-Lyon, en passant par Périgueux, par Limoges, par Roanne, c'est une ligne qui a été abandonnée par la SNCF en 2014, liquidation devant le tribunal de commerce de Cahors. Alors on a quelques initiatives qui essayent encore de rester la tête hors de l'eau. Il y a Le Train, vous l'avez cité, c'est un TGV Nantes-Bordeaux, ça fait un petit moment qu'on en parle mais il roule toujours pas. Il y a Kevin Speed qui était venu sur BFM Business raconter comment ils ont l'intention d'offrir des TGV low cost vers Lyon, Lille, Strasbourg, sorte de Ryanair du train. On a aussi un candidat à la concurrence de l'Eurostar sur Paris-Londres qui s'appelle Evoline qui nous dit qu'en 2025 il y aura un concurrent sur le Paris-Londres, j'attends de le voir le concurrent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Trenitalia et Renfe qui ont réussi à établir une petite concurrence face à la SNCF. Et encore, Trenitalia, il y a laissé des plumes en 2023, puisqu'ils ont enregistré quand même une perte d'exploitation. Alors là, on a un projet qui, pour la première fois, me fait espérer quelque chose. Parce que 1 milliard d'euros, c'est quand même des montants très importants. C'est un seul fonds d'investissement qui est derrière et qui est un fonds qui s'appelle Antin, qui est un fonds qui a de l'envergure, notamment dans le domaine du ferroviaire. Ils ont des expériences en Allemagne, des expériences en Grande-Bretagne, en Italie, aux États-Unis. Les 12 rames, vous en avez parlé, ça y est, c'est lancé. Même le projet de maintenance est organisé avec un nouveau site de maintenance qui sera installé près de Bordeaux. Puis bon, le pédigré de la directrice générale, Rachel Picard, qui est une ancienne tête de l'époque Pépi à la SNCF. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui savent un peu de quoi ils parlent. Donc c'est assez bien bordé, Rachel Picard. Elle a quitté la SNCF en 2020. Enfin, elle a quand même été la patronne des TGV et l'une des fondatrices de l'ancien site voyagesncf.com. Mais objectivement, je me suis dit, alors là, je serais en désaccord avec Jean-Marc. Je suis d'accord que la concurrence est souhaitable dans tous les domaines. Sauf qu'il y a des domaines, et notamment des domaines de réseau reposant sur des monopoles naturels. Et je pense au rail, je pense à l'électricité, où on voit que l'épanouissement de la concurrence n'est pas aussi simple que dans les autres domaines. Et d'ailleurs, l'un des deux fondateurs de Midnight Train a réagi après l'abandon de ce projet de train de nuit en disant qu'objectivement, il s'était rendu compte que le marché du rail était un marché qui avait été organisé par la puissance publique et qui avait été organisé pour être destiné à un opérateur historique. C'est une manière à demi-mot de dire que la concurrence, oui, peut-être, mais enfin, dans le rail, c'est vraiment très compliqué.
Jean-Marc, vous allez nous dire plus de concurrence. Évidemment, c'est souhaitable, mais est-ce que c'est possible face à la SNCF?
Ah oui, c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs raisons qui militent pour ça. La première raison, c'est le fait que quand on regarde à l'étranger, il y a beaucoup d'endroits où les transports ferroviaires sont en concurrence. Alors la concurrence d'ailleurs qui était à l'origine du projet, hein, je rappelle que sous le Second Empire, il y avait 320 compagnies ferroviaires en France. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, en Suisse, il y a 70 compagnies ferroviaires. Et sur ces 70 compagnies ferroviaires, il y en a qui sont très locales, et puis il y en a trois qui sont nationales, c'est-à-dire qui sont en concurrence immédiate avec les CFF. Au Japon, il y a 200 compagnies ferroviaires, et sur ces 200 compagnies ferroviaires, elles sont toutes avec des obligations, parce qu'elles ont des obligations, qui font que c'est les transports ferroviaires les plus à l'heure de toute la planète. Il y a une ponctualité de 98%. Il y a 98% des trains qui arrivent à l'heure au Japon. Donc, on a l'expérience à la fois historique et géographique du fait que les transports ferroviaires sont en concurrence. Alors après, il y a le fait qu'effectivement, il y a un discours, quand vous regardez en France, il n'y a pas de concurrence, il y a deux...
Il y a des tentatives, mais ça ne marche pas, manifestement.
Bon, ouais. Sur les trains de nuit, de toute façon, quand la SNCF avait décidé de privatiser ses trains de nuit, à un moment donné, elle a lancé un appel d'offres. Les conditions dans lesquelles on fonctionne font que, quel que soit l'opérateur, vous perdez de l'argent. Donc, il y a de la concurrence sur les endroits où vous pouvez gagner de l'argent. Et donc, la concurrence, ça suppose que vous définissiez effectivement un cadre qui permet de gagner de l'argent. La SNCF, elle a 20 milliards de subventions, d'euros de subventions. Donc, vous mettez en concurrence.
Vous allez énerver la SNCF.
Il faut que vous définissiez les conditions d'accès à ces subventions des autres concurrents. La concurrence, concurrence, ça suppose l'égalité. Mais ce qui me rend plus optimiste dans tout ça, outre, c'est l'évolution de l'état d'esprit. Mmh. C'est-à-dire que normalement, depuis 1991, l'Union européenne fait pression pour que la concurrence s'installe sur les chemins de fer sur le territoire de l'Union. La France a toujours résisté et c'est ancien. Je mets souvent en avant le fait que en 1954, il y a un petit moment, 70 ans, Mendès France avait imposé la concurrence de l'aérien sur la SNCF. Il était interdit à l'époque de faire des liaisons aériennes entre Paris et les grandes villes de province, on disait à l'époque, de région, on dit maintenant, parce que ça concurrençait immédiatement la SNCF. Et donc, Mendès France a imposé la création d'un concurrent au travers de Air Inter. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1956, le gouvernement de gauche de Front Républicain a fait d'Air Inter une filiale de la SNCF. De façon à ce que la SNCF puisse déterminer les horaires d'Air Inter pour ne pas faire concurrence à ces trains. Tout ça est derrière nous maintenant. La SNCF, elle est obligée de s'adapter, elle est obligée de constater que effectivement, de toute façon, elle n'y échappera pas. Et donc, pour moi, la phase suivante, c'est la privatisation.
Maintenant,
la concurrence, on est dedans. La phase suivante, c'est la privatisation.
Non, mais je sais pas si on est un cas français, parce que ce que dit Jean-Marc sur les autres pays est vrai. En tout cas, ça fait depuis 2018, en théorie, que la concurrence est ouverte dans le ferroviaire. Vous avez 5 Paris-Lyon, Trenitalia, qui circule en 2024.
Merci beaucoup à tous les deux.